l'Iran attend des dividendes économiques des négociations de Vienne. En état de panique suite à l'opération martyr de Hadira, l'armée israélienne renforce ses troupes en Cisjordanie et le parti au pouvoir au Nigeria nomme un nouveau président. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré dimanche 27 mars que récolter tous les dividendes économiques et la levée effective des sanctions constituent une priorité principale pour l'Iran dans les négociations sur son programme nucléaire. Monsieur Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'une réunion avec le secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure, Eric Mora. Il a affirmé que l'Iran avait rejoint les négociations de Vienne avec sérieux et avait présenté toutes les initiatives nécessaires pour parvenir à un accord, ajoutant que les autres parties, en particulier les États-Unis, devraient adopter une approche réaliste afin de faciliter la résolution des questions en suspens, selon le site internet de son ministre. L'absence d'une décision politique de la part des États-Unis de lever les sanctions auxquelles sont liés les avantages économiques de la nation iranienne, constitue actuellement un obstacle à l'obtention de résultats définitifs, a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée du dimanche, M. Mora a également échangé des points de vue sur la dernière situation des négociations de Vienne avec le négociateur principal de l'Iran et vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires politiques, Ali Bareilly. Ce dernier a souligné le sérieux et la détermination de son pays à conclure un accord à Vienne, affirmant que si Washington adopte une approche réaliste, un accord serait réalisable. En état de panique suite à l'opération martyr de Hadira, l'armée israélienne renforce ses troupes en Cisjordanie. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a ordonné l'envoi de 4 bataillons en Cisjordanie. Davoud Shahab, porte-parole du djihad islamique, a loué l'opération de Hadira en la qualifiant de réaction de la nation palestinienne et de tous les épris de liberté du monde. À la réunion malveillante à laquelle avaient participé entre autres les ministres des Affaires étrangères de Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Maroc et d'Égypte. De son côté, le Hamas a déclaré dans un communiqué que l'opération héroïque de Hadira était une réaction naturelle aux crimes commis par l'ennemi sioniste. Il s'agit d'une réaction naturelle et légitime aux crimes commis par les occupants contre la nation et les valeurs sacrées des Palestiniens, ajoute le texte. Dans ce droit fil, le porte-parole d'Ansarallah yéménite a déclaré que l'opération de Hadira était une réponse naturelle à la décision de certains pays de normaliser avec Israël. Mohamed Abdelsalam a félicité l'opération de dimanche soir à Hadira et apprécier le choix des Palestiniens qui bénéficient de différents moyens pour combattre le régime d'occupation. Cette opération est une réponse naturelle à la décision perfide de normalisation et prouve à quel point la nation palestinienne est vigilante, réitère le porte-parole d'Ansarallah. De son côté, le Hezbollah libanais a souligné que l'opération de Hadira était la meilleure réponse à la rencontre perfide de dirigeants arabes avec les sionistes. À travers un communiqué, le Hezbollah a salué l'opération de Hadira, soulignant que celle-ci mettait en évidence la ferme volonté de la nation palestinienne pour combattre le régime occupant par tous les moyens possibles. Cette opération est la meilleure réaction aux rencontres perfides responsables de certains pays arabes et les dirigeants du régime sioniste. Les pays qui ont choisi de normaliser leurs relations avec le régime, indique le communiqué. Le Hezbollah libanais a qualifié ces rencontres d'inutiles, car la véritable décision et celle de la nation palestinienne. La nation palestinienne rejette toute normalisation avec l'ennemi criminel et poursuit sa lutte jusqu'à l'émancipation et la victoire, réitère le Hezbollah libanais. Le 27 mars, l'armée syrienne a attaqué un véhicule MRAP de l'armée turque dans la région du nord-ouest de la Syrie, à Grand Idlib. Les soldats syriens ont pris pour cible le véhicule, un BMC Kirpi 2 avec un missile guidé anti-char, alors qu'il passait sur une route au sud-est de la ville d'Al-Atarib, dans la banlieue occidentale d'Alep. Le véhicule a été gravement endommagé. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, vitrine médiatique de l'opposition pro-occidentale, 3 militaires turcs, dont un officier, ont été blessés à la suite de l'attaque au missile. Le groupe de surveillance basé à Londres a déclaré que les blessés avaient été évacués vers des hôpitaux en Turquie. Le ministère turc de la Défense n'a pour l'instant fait aucun commentaire sur l'attaque homicide. Les médias turcs ont néanmoins déclaré que l'armée turque avait répondu à l'attaque en bombardant des positions dans la banlieue ouest d'Alep. Des sources pro-gouvernementales syriennes ont déclaré que l'attaque au missile était une réponse aux frappes d'artillerie turque du 23 mars sur la ville d'Idlib, contrôlée par les Kurdes en banlieue nordique d'Alep. Les frappes ont blessé deux soldats de l'armée syrienne. L'Irak construit un mur de béton le long d'une partie de sa frontière avec la Syrie pour empêcher les terroristes de Daesh de s'infiltrer dans son territoire, a indiqué dimanche une source militaire irakienne. Dans la première étape de la construction, un mur d'environ d'une douzaine de kilomètres de long et 3,5 mètres de haut a été construit dans la province de Ninive, dans la région de Sinjar, en ouest de l'Irak, a déclaré un officier supérieur. L'Irak, qui partage une frontière longue de plus de 600 km avec la Syrie, cherche à mettre fin à l'infiltration des terroristes Daesh sur son territoire, a ajouté la source. Déjà en 2018, l'Irak a déclaré avoir commencé à construire une clôture le long de la frontière syrienne pour la même raison. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a déclaré que la construction du mur avait été réalisée dans une zone faisant face à la ville d'Al-Shadadi, dans le sud de la province syrienne de Hasaka, où en janvier dernier, des daéchistes ont attaqué une prison située dans les zones contrôlées par les Kurdes pour libérer leurs camarades. On pense que de nombreux prisonniers se sont échappés, certains traversant la Turquie voisine ou le territoire sous contrôle turc dans le nord de la Syrie, a indiqué l'ESTH. Daesh a envahi de vastes pans de l'Irak et de la Syrie en 2014, déclarant un prétendu califat avant que Bagdad ne proclame la victoire sur le groupe terroriste fin 2017 à l'issue d'une campagne intense. Mais les agissements terroristes se poursuivent bien qu'avec un rythme ralenti, en particulier dans les zones rurales et montagneuses entre la région autonome du Kurdistan irakien et la périphérie nord de la capitale. Après la visite de Falal Fayyad, le chef des unités de mobilisation populaire Hashd al-Shaabi en Syrie, et sa rencontre avec le président syrien Bachar al-Assad, l'Irak a fait part de son intention de construire un mur à la frontière avec la Syrie voisine. Le parti au pouvoir au Nigeria, le Congrès de tous les progressistes, APC, a choisi dimanche 27 mars Abdoulaye Adamou, sénateur de l'État de Nassarawa, centre-nord du pays, pour exercer la présidence du parti avant les élections générales prévues l'année prochaine. Avec le soutien du président nigérian, Muhammadu Buhari, M. Adamou a émergé comme le candidat faisant consensus au sein de l'APC. Après la démission de six autres candidats au cours de la convention nationale du parti qui s'est ouverte samedi à Abuja, la capitale nigériane. Le nouveau président du parti au pouvoir a été élu sans opposition au terme d'un vote par acclamation. L'événement a réuni des délégués et des membres de l'APC de tous les États du pays. Le parti au pouvoir n'avait plus de chef depuis 21 mois. Au cours de cette période, les affaires courantes du parti avaient été confiées à un comité intérimaire dirigé par un gouverneur. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Aramco, le coup de grâce d'Ansar Allah. Les régions stratégiques et importantes de l'Arabie Saoudite ont été prises pour cible par des missiles et drones d'Ansar Allah, ce qui a bouleversé les équations régionales et mondiales. Dans un communiqué publié dans la soirée du vendredi 25 mars, le mouvement yéménite d'Ansar Allah a annoncé la troisième grande opération visant à briser le blocus saoudien contre le Yémen, au cours de laquelle 18 cibles dans le sud et le centre de l'Arabie Saoudite ont été attaquées par drones et missiles d'Ansar Allah. Le communiqué précise que les installations d'Aramco à Jeddah et des cibles vitales à Riyad ont été prises pour cible par des missiles de croisière, tandis que les raffineries de Ras Tanura, Rabir et les installations d'Aramco à Jizan et Najran ont été attaquées par des drones suicides et des cibles vitales à Baha, Khamis Mushait et Zahran par des missiles. Les analystes et experts des affaires régionales repèrent des points importants de cette opération stratégique. Tout d'abord, l'opération coïncide avec l'anniversaire du lancement de la campagne militaire de la coalition saoudienne contre le Yémen, ce qui fait comprendre à l'ennemi saoudien que l'équilibre de force a changé en faveur des Yéménites. Les frappes menées dans le cadre de cette opération ont causé de graves dommages et dégâts à l'Arabie saoudite. La ligne de production d'Aramco ayant été anéantie, le géant pétrolier diminue sa production de 70%. À cela s'ajoutent les pertes concernant les réserves de pétrole de Jeddah, qui comptent plus d'un quart de réserves de carburant saoudiennes. Du point de vue militaire, les forces yéménites sont passées de position défensive à celle offensive. L'opération était sans précédent du point de vue de l'étendue géographique des cibles visées et des zones d'opération. Près de 18 cibles militaires ont été attaquées, dont certaines se situent à 1000 km de distance du Yémen. Les frappes ne se sont pas d'ailleurs concentrées seulement sur des zones militaires et s'élargissent à des cibles vitales et des infrastructures. Assar Allah est clair. Vous attaquez nos infrastructures, nous attaquerons les vôtres. L'opération porte aussi plusieurs autres messages aux pays participants à la coalition saoudienne, dont et surtout les Émirats arabes unis, les appelant à changer de stratégie envers le Yémen. D'autant plus que les Émirats comptent un nombre de cibles vitales et qu'ils envisagent de mettre sur pied la plus grande usine de dessalement, soit le troisième projet de dessalement au monde. Ces frappes d'envergure ont mis en ruine la stratégie de sécurité contre pétrole. L'Arabie saoudite souhaitait que le pétrole qu'elle offre généreusement aux Américains garantisse sa sécurité. Or, ces opérations ont créé des défis majeurs pour le royaume des Wahhabites, dont le plus important se traduit par la guerre de pouvoir entre les princes qui, eux, étaient dès le début contre les politiques du prince héritier Mohammed bin Salman envers la guerre au Yémen. Toutes ces frappes et opérations couronnées de succès ont prouvé que les systèmes ô combien chers de défense aérien américain vendus à Riyad ne lui ont servi à rien. L'Arabie saoudite n'est que cette fameuse vache à lait pour les Américains. Les récentes opérations d'Assar Allah ont d'ailleurs changé toutes les équations et évaluations mondiales. Après avoir imposé des sanctions sans précédent au secteur énergétique de la Russie, les pays européens et même les États-Unis espéraient pouvoir compter sur l'Arabie saoudite pour compenser le manque de pétrole, tout comme ce qui s'est passé après l'établissement des sanctions contre l'Iran. L'Arabie saoudite leur a fourni le pétrole dont ils avaient besoin alors que l'Iran n'avait plus le droit d'en exporter. Mais les attaques contre les réserves de pétrole et les raffineries saoudiennes ont bouleversé les évaluations et basculé les calculs. L'Arabie saoudite n'est plus en mesure de garantir l'énergie à l'Europe. Dans le plus optimiste des cas, Riyad peut maintenir l'exportation quotidienne de millions de barils. Plus de 8 ans de guerre au Yémen n'ont rien apporté à Riyad que pertes et dommages.